It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Ces quelques notes empruntées au répertoire du saxophoniste Wayne Shorter ont été revitalisées par un musicien qui peut s'enorgueillir d'avoir côtoyé les plus grandes figures de l'épopée des musiques noires, de George Benson à Prince, en passant par Herbie Hancock, Marcus Miller, Steve Coleman ou Cassandra Wilson. Il faut dire que sa virtuosité à l'harmonica séduit instantanément les oreilles les plus sensibles, et ce n'est pas son nouvel album qui prouvera le contraire. Grégoire Marais, soyez le bienvenu.
Merci à vous. Merci.
Vous êtes donc harmoniciste d'origine afro-américano-suisse et vous nous présentez aujourd'hui Wanted, un album qui est le premier volet d'un triptyque sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Mais d'abord parlons de votre parcours qui fait rêver, puisque depuis l'âge de 17 ans, vous brillez sur les scènes internationales aux côtés des légendes de notre temps. Comment est née votre passion pour l'harmonica ?
Je pense que je suis tombé amoureux de l'harmonica de par le fait que ça a une sonorité très proche de la voix. Et avant, en fait, en grandissant, écoutant beaucoup de musique grâce à mes parents, je chantais un petit peu. Et puis quand ma voix muée, j'ai arrêté de chanter et puis j'ai commencé à jouer de l'harmonica peu après, en fait. Et ça a été un instrument qui vraiment a remplacé ma voix. Donc il y a un côté très lyrique pour moi au niveau de cet instrument qui était important.
Vous avez appris d'oreille ou vous êtes passé par des écoles ?
J'ai commencé à jouer du blues avec des harmonicas diatoniques, dans les petits harmonicas qu'on peut acheter un petit peu partout, que je pense la plupart des gens ont à la maison. Et puis ensuite, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Et l'école où j'étudiais m'a demandé de prendre un instrument complet, donc je leur ai en fait demandé si c'était possible de jouer de l'harmonica chromatique au lieu du diatonique et ils ont accepté. Et puis c'est en fait comme ça que j'ai commencé l'harmonica chromatique, qui est en fait, pour tous ceux qui nous écoutent, un harmonica un petit peu plus complet avec un poussoir sur le côté droit qui fait qu'on peut jouer une gamme chromatique. Voilà, je sais pas si ça aide un petit peu les gens à comprendre ce qui se passe. Alors que le diatonique joue juste dans une tonalité, une gamme, le chromatique peut jouer dans toutes les tonalités. Voilà.
Le chromatique, c'est l'harmonica qu'utilisent des gens comme Stevie Wonder ou d'autres ?
Oui, Toots Thielemans également.
Toots Thielemans, voilà. L'harmoniciste exactement. Belge qui nous a quittés il y a peu,
exactement.
Dont nous parlerons tout à l'heure. Est-ce que vous savez ce qui a séduit les Herbie Hancock, Pat Metheny ou Didi Bridgewater lorsque vous jouez à leur côté ?
Je pense que c'est le fait que j'ai vraiment une voix à moi sur l'instrument, quelque chose de propre. J'essaie pas d'imiter Toots Thielemans ou Stevie Wonder. Évidemment, j'ai été très influencé par ces deux musiciens géniaux. Mais j'ai vraiment quelque chose de personnel sur l'instrument. Parce que quand je suis allé à New York pour étudier d'abord, et puis ensuite quand j'ai commencé à jouer avec des musiciens comme Steve Coleman, c'était une musique, un style musical qui n'avait jamais été fait et exploré à l'harmonica en fait. Donc j'ai dû trouver une autre manière de jouer cet instrument pour pouvoir jouer cette musique. Jouer cette musique donc, de Steve Coleman, le saxophoniste, à la manière de Toots Thielemans, ça ne marchait pas, quoi. Donc il m'a fallu recréer en fait un style musical propre à mon instrument qui puisse vraiment marcher avec cette nouvelle musique. Et c'était un challenge incroyable, mais en même temps, ça m'a poussé à trouver une voix en fait, sur l'instrument qui était personnelle. Et donc, je pense que les gens comme Herbie, Pat Metheny, Cassandra Wilson, enfin, il y en a plein, ils ont été sensibles à ça. Ils ont vraiment entendu quelque chose de nouveau sur cet instrument qui leur plaisait.
J'imagine que certains d'entre eux sont vos héros. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous partagez la scène avec eux ?
Je pense qu'on a déjà tous la même passion pour la musique. Évidemment, tous ces gens sont mes héros. Les premiers concerts avec chacun de ces musiciens, ça a toujours été des moments, je vais dire juste des moments forts, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je veux dire, des fois, j'étais en larmes. Le fait de pouvoir jouer avec des gens comme Herbie Hancock ou George Benson, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Mais le fait est que il y a un moment où on est là vraiment pour la musique. On oublie tout ça et on essaye juste d'être au service de cette musique. Et on est tous là, ensemble, on s'aide. Et il n'y a pas d'ego. Il n'y a personne qui est là à dire... bon, il y aura un leader, évidemment. Il y a quelqu'un qui dirige le groupe. Mais il n'y a personne qui est là en train d'imposer sa volonté. C'est juste, on est là vraiment pour la musique. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément, quoi.
Je vous pose cette question parce que la percussionniste Sheila I., que nous avions reçu dans cette émission, nous disait qu'il était difficile pour elle de ne pas être spectatrice du concert auquel elle participait quand elle secondait, par exemple, Marvin Gaye, Lionel Richie ou Prince. Est-ce que cela vous arrive également ? Est-ce que vous conservez cet émerveillement face aux icônes que vous côtoyez ?
Oui, tout à fait. Je sais que, par exemple, la première fois que j'ai joué avec Herbie Hancock, j'étais là, mais je ne voudrais pas être ailleurs. Il fallait que je sois exactement à cet endroit, à ce moment, et c'est je suis en train de vivre un moment parfait. C'était un peu la même chose avec il y a quoi, 2 semaines, j'ai joué avec Quincy Jones et c'était un moment très très fort pour moi. Donc oui, je m'en lasse pas.
Quand vous jammez avec Prince par exemple, puisque ça a été le cas, vous deviez être sur un nuage plus que sur scène.
Ouais, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a, quand on y réfléchit un peu trop, on commence à penser au fait que c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer, mais il faut essayer de faire ça peut-être un peu après, parce que au moment où on joue, il faut vraiment se concentrer sur la musique pour jouer vraiment la musique qui est en train de se créer dans l'instant, quoi. Et il faut en profiter aussi, parce que sinon on n'en profite pas si on est trop en train de réfléchir. Oh, je suis avec Prince maintenant, c'est incroyable. Non, allez, on fait de la musique, et puis après, je pourrais réfléchir à ça et dire, oh, j'ai joué quelque chose avec Prince, c'est juste incroyable.
Et comment vous êtes-vous retrouvé donc avec Quincy Jones il y a 15 jours ?
Bon, en fait, ils ont le festival de Monterey en Californie a organisé un tribute to Quincy Jones et ils m'ont invité parce que Quincy avait écrit beaucoup d'arrangements pour Toots Thielemans. Donc ils m'ont invité à venir jouer et puis je savais pas du tout s'il allait être présent ou bien s'il allait venir peut-être juste écouter un petit peu cette musique. Mais en fait, il était là, il a écouté le soundcheck et le concert, et il a même dirigé l'orchestre à la fin quoi, du concert. Et c'était un moment merveilleux parce que j'ai eu l'occasion vraiment de le rencontrer, de parler avec lui, d'avoir un moment avec lui où j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait entre moi et lui. Ce n'était pas juste le fait de jouer de la musique et puis on ne se voit plus jamais, mais on a vraiment eu une connexion, quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'était un peu magique pour moi.
Sur votre album Wanted, vous avez convié quelques personnalités de marque, Mino Sinelu, grand percussionniste, Frank McComb, chanteur de soul, très influencé d'ailleurs par Stevie Wonder, mais pas que, Diane Reeves, entre autres, grande chanteuse, immense chanteuse. Je vous propose d'écouter votre duo avec la divine Diane Reeves et on en parle juste après.
D'accord.
Voici Heavens.
Hold me,
Heavens, Grégoire Marais en compagnie de la fabuleuse Diane Reeves sur l'album Wanted. Vous la connaissez depuis longtemps, Diane Reeves ?
Non, je la connais depuis 2 ans, je dirais. Parce qu'en fait, Terry Lynn Carrington avait produit son dernier disque.
La batteuse ?
La batteuse, oui. Terry Lynn Carrington, qui a joué aussi avec Herbie et plein de gens, avait produit son dernier disque et m'avait demandé de venir jouer sur un des morceaux. Et puis, bon, ça c'était un peu la première rencontre, mais on n'avait pas vraiment eu l'occasion de se voir parce que c'était une session de studio où elle n'était pas présente. Et puis ensuite, quand j'ai fait mon disque, j'avais écrit ce morceau et je pensais à une voix, mais je n'étais pas sûr qui j'allais inviter. Et j'en ai parlé à Terry Lynn Carrington et elle m'a dit « il faut que j'en parle à Diane ». Et elle a tout de suite accepté. Et elle, en fait, elle m'a envoyé une démo en fait, le lendemain avec ses paroles qui sont maintenant sur le disque. Et puis, elle a enregistré sa voix peut-être 3 jours après ça. Donc, ça s'est fait très, très vite. Quoi. Elle a eu un coup de foudre pour cette chanson. Donc, c'était vraiment incroyable. Quoi. Et depuis, on est devenus des amis. Elle m'a invité d'ailleurs à Marciac cet été pour jouer avec elle. Cette chanson d'ailleurs, qu'on a jouée ensemble et d'autres. Et c'était assez magique.
Qu'est-ce qu'elle apporte pour vous à l'art vocal jazz ?
C'est une des plus grandes chanteuses de sa génération. C'est juste phénoménal, sa manière de chanter, l'expression, la maîtrise. Mais ce n'est pas seulement la maîtrise, l'émotion qu'elle crée. Et puis, elle est juste fantastique. C'est une bête de scène, honnêtement. C'est-à-dire que je l'ai invitée parce que j'ai travaillé là, depuis quoi, 2 ans sur un autre projet qui sera de la musique gospel, en fait, avec un mélange de jazz. Et je l'ai invitée à New York quand j'ai fait un concert là-bas avec ce groupe en tant qu'invitée. Et elle est venue, elle a chanté le dernier morceau du concert. Et enfin, c'était juste incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai pas de mots pour décrire cet instant. Quoi. Et voilà.
Elle est aussi une artiste militante qui s'émeut quand des exactions policières maltraitent la population noire aux États-Unis. Est-ce que la situation actuelle outre-Atlantique vous inquiète, Grégoire Marais ? Diriez-vous que Wanted, par exemple, votre nouvel album, est un engagement citoyen ?
Absolument. Ouais, on est tous inquiets par ce qui est en train de se développer d'une certaine manière aux États-Unis. Je ne sais pas comment décrire ça, parce que c'est vraiment quelque chose de triste, là, ce qui est en train de se passer. On a l'impression de revenir un peu en arrière, aussi au niveau politique. C'est-à-dire que le combat entre Trump et Clinton, c'est du grand n'importe quoi. On est tous très tristes de voir ça comme ça. Enfin, tous les gens que je connais, les gens qui sont proches. Et évidemment, de voir des gens et d'entendre aux nouvelles qu'une fois par semaine ou même des fois tous les jours, il y a une personne noire qui se fait assassiner par la police, c'est juste insupportable. Et en fait, ce triptyque ou cette trilogie, c'est à propos de ça.
Donc Wanted, c'est le premier volet voilà, de ce triptyque.
Exactement. J'avais besoin de parler de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui me touche, qui me fait mal. Et j'en avais besoin d'en parler, pas d'une manière négative où je suis là juste me plaindre, mais juste dire qu'il y a quelque chose, qu'il faut faire quelque chose. J'ai envie de mettre ça sur la table et puis en essayant que les gens y réfléchissent un peu et puis peut-être qu'on trouvera des solutions, j'espère, parce que c'est juste insupportable. Donc la première partie, c'est Wanted, qui va être suivie d'une deuxième partie qui sera en fait sur le prison system aux États-Unis, qui est en fait la forme moderne de l'esclavage. En fait, si on regarde de manière historique, on comprend que ça a été totalement créé. Il y a un design derrière tout ça. Ce n'est pas un accident. Ça a été totalement pensé et réfléchi de la sorte. Parce que quand l'esclavage a été aboli, ils avaient besoin de main-d'œuvre gratuite. Et la manière de faire ça, c'était de mettre les gens en prison et de les faire travailler gratuitement. Et qui c'est qui s'est retrouvé à travailler ? C'était de nouveau les Noirs. Ça, ce sera le deuxième opus. Et le troisième, ce sera sur la liberté ou l'illiberté qui sera à travers le prisme de la musique gospel.
Est-ce que vous diriez que vos racines afro-américaines vous ont poussé à défendre une telle cause ?
Oui, évidemment. Mais c'est le fait pour moi d'être humain. C'est-à-dire, je trouve insupportable de voir quelqu'un se faire tuer simplement parce qu'il est ce qu'il est. Quoi. C'est juste insupportable. Donc voilà, il fallait que j'en parle un petit peu à ma manière. Voilà.
Diriez-vous que Barack Obama a échoué dans son désir d'unir les différentes communautés sous le drapeau américain ?
En fait, ce qui s'est passé avec Barack Obama, c'est que la population blanche, pas tous les blancs, mais une partie de la population blanche a été totalement révoltée par le fait d'avoir un président noir dans la Maison Blanche. Ils sont tout ce qui était un petit peu des choses cachées qu'ils n'osaient pas dire, ils l'ont dit et ils osent le dire maintenant sans aucun complexe. Et celui qui symbolise un peu tout ça, c'est Donald Trump. C'est-à-dire qu'il dit tout et n'importe quoi, et puis ces gens le suivent en disant que c'est juste extraordinaire ce qu'il dit, parce qu'il est honnête et il est sincère. Et puis il dit juste des monstruosités, quoi. Donc voilà.
Est-ce que les personnalités qui participent à votre album épousent votre engagement pour la paix et la justice? Je pense notamment à des gens comme Kokai ou Kofo the Wonder Man, qui forcément ont un intérêt pour la cause que vous défendez.
Bon, je pense que les musiciens de jazz, on est une toute petite minorité aux États-Unis et on a une certaine forme de justice parce que nous, on souffre de ça aussi par la musique qu'on joue. C'est-à-dire que ce n'est pas une musique facile à jouer aux États-Unis parce que ce n'est pas de la musique mainstream qu'on appelle en anglais. Et puis donc, il faut lutter dur pour avoir la possibilité de jouer dans des clubs, de jouer peut-être même dans des théâtres de temps en temps. Donc déjà ça, c'est une chose qui va nous rendre sensibles à certaines réalités. Et puis le fait est qu'une grande partie aussi des gens qui jouent de la musique de jazz, le jazz a été créé aussi par les Afro-Américains. Et puis on a tous souffert d'injustices au niveau de racisme et choses là qui font qu'on est évidemment très sensible quand on voit quelqu'un qui souffre de ça.
Qui sont Kokai et Kofo the Wonder Man?
Alors Kokai, pour moi, c'est un génie du rap. C'est-à-dire que c'est une personne que j'ai rencontrée avec Steve Coleman, le saxophoniste. J'ai eu l'occasion de tourner avec lui dans Dap Theory, avec Andy Mill, le pianiste, qui avait un groupe qui s'appelle Dap Theory. Et lui, en fait, il improvisait ses textes dans l'instant, vraiment. Il créait, il regardait ce qui se passait en fait, autour de la scène, dans le public. Et puis, il commençait à raconter une histoire. Et souvent, c'était en fait ce qu'il voyait, comment les gens dansaient, comment ils réagissaient par rapport à ce qu'on jouait. Et puis, il y avait un côté assez comique, mais c'était juste d'une finesse et c'était juste extraordinaire. Et son sens du rythme est juste incroyable pour moi. C'est vraiment un très, très grand musicien. Je suis juste un fan de sa manière de faire du rap. Et puis, Kofo the Wonder Man, c'est un grand joueur de talking drums qui est un instrument très important dans la musique traditionnelle du Nigeria. Et puis,
il est nigérian lui-même.
Exactement. Et il en joue, moi je trouve que c'est juste extraordinaire. Je l'ai vu commencer des morceaux, juste lui en solo, où il jouait une ligne de basse aux talking drums. Et enfin, le groove qu'il avait, c'était juste incroyable.
Finalement, vous êtes panafricaniste. C'est l'unité de la diaspora africaine dans le monde qui vous intéresse.
Moi, c'est les rapports humains qui m'intéressent. Donc oui, évidemment ça, mais le fait de pouvoir simplement jouer de la musique avec des gens que j'apprécie, que j'admire, de tous les horizons, vraiment.
Voici en tout cas quelques effluves d'une tonalité africaine ancestrale par Minou Sinelu et Kofo the Wonder Man sur votre album Wanted. Talking Drums, un extrait vibrant du dernier album de Grégoire Marais, notre invité dans l'épopée. Grégoire Marais, le 22 août dernier, l'un de vos parrains disparaissait à l'âge de 94 ans. Il s'appelait Toots Tillemans. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler qui était ce monsieur et l'importance qu'il avait dans l'histoire du jazz?
Toots Tillemans, c'était un monsieur harmonica, d'une certaine manière. C'est vraiment lui qui a donné, je pense, les lettres de noblesse avec Stevie Wonder à l'harmonica chromatique, qui a fait en sorte que cet instrument soit moderne. Son approche sur l'instrument, c'est juste du pur génie, en fait. Voilà.
On dit, vous dites qu'il a été votre mentor, votre principale inspiration. Est-ce que vous savez pourquoi il vous a pris sous son aile ?
Parce que je pense que je jouais différemment de lui. C'est-à-dire que j'essayais pas de le copier. J'étais influencé, évidemment, parce que c'est mon héros. Je crois qu'il a été très touché quand il a pu entendre la musique qui était différente. C'est-à-dire, par exemple, je sais que Kenny Werner, le pianiste qui jouait beaucoup avec lui, lui avait parlé d'un des groupes dans lequel j'étais, qui s'appelle Daptory, et donc avec le pianiste Andy Milne, et il trouvait ça intéressant parce que justement c'est assez innovateur, c'est des rythmiques un peu irrégulières et des grooves un peu différents. Il avait conseillé à Toots d'écouter ça. Et en fait, je lui avais offert un des disques qu'on avait fait avec ce groupe, Daptory, et je sais pas, il s'est passé quelque chose, il m'a rappelé le lendemain matin à 8h du matin en me disant écoute, j'ai écouté ce disque toute la nuit là, c'est juste incroyable, et j'arrivais pas à y croire. Je pense que j'arrive pas à croire que le grand Toots Thielemans m'appelait à 8h du matin pour parler de mon jeu sur ce disque. Donc voilà, et à partir de là on est devenu très très proche, quoi. J'ai tourné beaucoup avec Cassandra Wilson, on est allé plusieurs fois en Belgique évidemment avec Marcus Miller aussi, et il venait souvent au concert. Et une fois on a joué ensemble, Cassandra l'a invité sur scène à venir jouer avec nous, et c'était un moment assez divin de pouvoir jammer avec lui. Et puis en plus, après, moi j'ai commencé à tourner un petit peu avec mon groupe, et puis une fois on est allé en Belgique et il est venu au concert, quoi. Et là c'était vraiment quelque chose d'incroyable, et il a fini la soirée avec nous à jouer à jammer. C'est pas vraiment de mots pour décrire cet instant.
Un géant en tout cas, comme un autre immense harmoniciste que vous citiez, Stevie Wonder. Vous avez joué avec lui ?
J'ai un petit peu jammé au NAMM Show, mais pas vraiment joué avec lui. J'espère que c'est quelque chose qui se fera dans le futur, mais ouais, je suis un fan absolu.
Il a une influence évidemment sur votre jeu.
Absolument, mais c'est un pur génie aussi. C'est-à-dire... Et d'ailleurs, c'est un jeu totalement différent, c'est ça qui est intéressant aussi. Sa manière de jouer l'instrument, l'harmonica, est complètement différente de Toots Thielemans.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est beaucoup plus funky. Il joue de l'harmonica comme il chante, exactement de la même manière. Donc, il n'y a que Stevie Wonder qui peut jouer de l'harmonica comme ça.
Vous seriez capable de nous montrer la différence ?
Ils ont leur identité, mais je vais essayer de démontrer la différence. La première, ce sera Stevie, et puis ensuite, je vais essayer d'imiter Toots. C'est Stevie, et une phrase un peu similaire à la Toots. Voilà, grosso modo.
J'ai l'impression finalement qu'il y a plus de lyrisme dans le jeu de Toots Thielemans.
C'est une émotion différente. Mais les deux, pour moi, sont des génies. Mais en même temps, je leur demanderai pardon aux deux parce que j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment réussi l'exercice. Mais j'ai fait un peu de mon mieux.
Donc merci justement d'avoir fait cet effort.
J'ai tenté.
De nous montrer la différence entre le jeu de Toots Thielemans et celui de Stevie Wonder. Grégoire Marais, revenons à aujourd'hui. Vous serez les 17 et 18 octobre prochains au Sunside à Paris, c'est lundi et mardi, dans le cadre du festival Jazz sur scène qui se tient jusqu'au 22 octobre dans toute l'île de France. Peut-on s'attendre à voir surgir des invités surprises pendant vos prestations de lundi et mardi, comme sur votre album ?
Vous pouvez, mais je ne dirai pas qui, mais il va y avoir des surprises.
Ouais. Ouais.
Donc là... vous n'avez plus aucune excuse, vous devez venir tous. Prenez l'avion, je ne sais pas où vous êtes.
Vous avez bien pris l'avion pour venir jusqu'à nous.
Ouais, exactement, j'arrive ce matin de New York. Je suis absolument heureux d'être ici à Paris aujourd'hui, mais c'est avec un grand plaisir que je suis venu à Paris.
En plein décalage horaire.
Totalement, je ne trouve plus mes mots.
C'est ça la force des musiciens, justement. Ils peuvent jouer un jour à New York, le lendemain à Paris. Je rappelle que Wanted, votre nouvel album, sera disponible en France en novembre. C'est bien cela?
Exactement. Oui.
La semaine prochaine, nous serons en compagnie d'un ami à vous, le contrebassiste Christian McBride.
Ah ouais.
Qui était à l'affiche du Nancy Jazz Pulsation qui s'achève ce week-end dans l'Est de la France. Merci à Nathalie Laporte pour sa rigueur indiscutable en régie finale. Passez une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Dans 30 secondes, le journal.
RFI, la sélection.